Et on commence avec les grands titres de l'actualité, les États-Unis et le rejet de l'accord sur le nucléaire iranien. C'était un accord signé par Barack Obama. La communauté internationale s'indigne. L'UNESCO a une nouvelle présidente et elle est française. Et en France, le gouvernement souhaite mettre fin aux déserts médicaux. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se disent préoccupés par la décision du président américain Donald Trump de ne pas confirmer l'accord sur le nucléaire iranien. D'après donc ce président Donald Trump, l'Iran ne respecte pas l'esprit de l'accord sur le nucléaire et se dit donc prêt à dénoncer à court terme. On écoute le président américain Donald Trump.
In just a few years, as
dans seulement quelques années, avec la disparition des principales restrictions, l'Iran peut rapidement se proclamer puissance nucléaire. En vertu des faits que j'ai mis en avant, j'annonce aujourd'hui que nous ne pouvons pas confirmer et nous ne confirmerons pas cette certification. Nous ne poursuivrons pas sur cette voie dont l'issue prévisible est plus de violence, plus de terreur et la menace réelle de l'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire. Voilà pourquoi je demande à mon administration de travailler étroitement avec le Congrès et nos alliés afin de pallier aux nombreuses failles de l'accord nucléaire, de manière à ce que le régime iranien ne puisse jamais menacer le monde de ses armes nucléaires. Au cas où nous ne parvenions pas à trouver de solution avec le Congrès et nos alliés, alors l'accord serait résilié.
Voilà donc le président américain Donald Trump. La balle est désormais dans le camp du Congrès américain. Et ce Congrès a 60 jours pour agir. Les explications de Toufik Benaïchouch.
C'est sans doute la décision du président américain la plus déconcertante pour tous les signataires de l'accord conclu avec l'Iran. Moscou, Pékin, Londres, Berlin et même Paris. Or, tous les signataires, hormis donc Washington maintenant, estiment que l'accord qui empêche l'Iran de se doter de l'arme nucléaire fonctionne et il fonctionne plutôt bien. C'était aussi l'avis du secrétaire général des Nations Unies. En outre, depuis sa conclusion en juillet 2015, pas moins de 7 rapports d'inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, explique que l'Iran s'y tient scrupuleusement à cet accord. Cette décertification, en tout cas, ne signifie pas encore que Washington dénonce l'accord, mais le président américain demande au Congrès de durcir les sanctions à l'égard de l'Iran et de prendre des sanctions contre les gardiens de la Révolution, vous l'avez dit, une organisation paramilitaire de la République islamique qui contrôle des pans entiers de l'économie iranienne. Si c'était le cas, qui traitera désormais avec les Pasdaran seront également passibles de la loi américaine. Autrement dit, il sera difficile, voire impossible, aux compagnies américaines et européennes, notamment dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications ou encore dans les infrastructures, d'investir en Iran. Le Congrès suivra-t-il l'avis de Donald Trump ? Il a 60 jours pour trancher.
C'est donc Toufik Benaïchouch pour RFI. Quelques réactions à propos donc de ce changement de position des Américains et de Donald Trump. Tout d'abord avec la responsable de la politique étrangère européenne, c'est Federica Mogherini.
It's clearly not in the hands of any president of any country in the world to terminate an agreement of this sort, because this is a UN Security Council resolution. This is a plan of action that sets things to be done, commitments, nuclear-related commitments, and only nuclear-related commitments, and that is being implemented. So, the President of the United States has many powers, not this one.
C'était donc la responsable de la politique étrangère européenne, c'était Federica Mogherini. Écoutons également bien le président iranien Hassan Rouhani. Pour lui, son pays va continuer à faire comme avant.
We will continue to cooperate with the International Atomic Energy Agency in the framework of international treaties and the Joint Comprehensive Plan of Action. But if someday our interests are not realized and other parties want to violate their commitments, they should be aware that Iran will not hesitate a moment and will respond to them.
Les propos traduits du président iranien Hassan Rouhani. Il faut noter que l'Israël, l'Arabie Saoudite, les États Arabes Unis et Bahreïn saluent la décision américaine. Une autre décision choc de la présidence américaine, c'est le retrait du pays de l'UNESCO, suivi dans la foulée par Israël. Les États-Unis ont décidé de quitter l'organisation en l'accusant d'être devenue anti-israélienne. Ces annonces ont été faites à la veille de l'élection pour la présidence de l'UNESCO. Et c'est une Française qui a été élue à la tête donc de cette organisation, de l'ONU, qui est en charge du patrimoine mondial, et c'est Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture de François Hollande, qui a donc remporté cette élection. Qui est Audrey Azoulay ? Réponse par Béatrice Léveillé.
La bataille aura été sévère entre l'ancienne ministre de la Culture, Audrey Azoulay, la candidate de la France, et le Qatarien, Ahmad bin Abdulaziz Al-Kawari, lui aussi ancien ministre de la Culture de son pays, qui promettait de renflouer les budgets de l'UNESCO, mais ne faisait pas l'unanimité, surtout dans le monde arabe. Audrey Azoulay a finalement bénéficié de la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. En pleine crise budgétaire et après la sortie fracassante des États-Unis et d'Israël, l'UNESCO a besoin de se recentrer sur ses fondamentaux et de surmonter les dissensions. La candidate, Audrey Azoulay, disait qu'elle avait une vraie envie du poste parce qu'il porte des valeurs universelles et humanistes. La désignation par les 58 membres du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de cette franco-marocaine issue de la communauté juive des Saouiras, dont le père est conseiller du roi du Maroc, pourrait réconcilier les deux rives de la Méditerranée sur des projets d'éducation et de défense d'un patrimoine menacé notamment par le terrorisme. L'élection doit encore être validée par l'ensemble des 195 États composant l'UNESCO à la mi-novembre.
Béatrice Léveillé pour RFI. On écoute d'ailleurs Audrey Azoulay sur son projet pour l'UNESCO.
Un processus électoral qui s'est déroulé à un moment particulier pour l'UNESCO, un moment de crise, une semaine particulière. Et dans ce moment de crise, je crois qu'il faut plus que jamais s'impliquer dans l'UNESCO, la soutenir, chercher à la renforcer et à la réformer, et non pas la quitter. Et si je suis confirmée et amenée à diriger cette institution, la première chose que je ferai sera de m'attacher à restaurer sa crédibilité, la confiance des États membres, son efficacité, afin qu'elle puisse agir, parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire de façon durable sur les enjeux qui sont ceux de notre monde.
Donc Audrey Azoulay, la nouvelle présidente de l'UNESCO. À 13h08, la Corée du Nord maintenant, et le gouvernement australien, qui par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop, et la ministre de la Défense, Mary Spain, eh bien, qui renforce son soutien à la Corée du Sud. On écoute d'ailleurs la ministre de la Défense, Mary Spain.
We're aligned on the on our views on North Korea's unacceptable and provocative behavior. We, of course, have strongly condemned their ballistic and nuclear missile activities. We stand by the Republic of Korea in the face of threats from North Korea.
Ouais, donc la ministre de la Défense australienne, Maryse Payne. Direction le Japon maintenant, et l'affaire Kobe Steel qui prend de l'ampleur. Le géant de l'acier et du métal japonais aurait fait l'objet de fausses certifications. Les produits Kobe Steel sont utilisés dans le monde entier, dans l'industrie automobile, maritime ou aérienne. Le point depuis Tokyo avec Frédéric Charles.
Le patron de Kobe Steel, Hiroya Kawasaki, admet avoir livré à 270 clients des composants en aluminium et en cuivre avec de fausses certifications, et qu'une partie de ces produits ont été fabriqués dans ses usines à l'étranger. Parmi les clients de Kobe Steel, la presse japonaise mentionne les noms de plusieurs entreprises françaises, comme Renault et son partenaire Nissan, l'équipementier Valeo. De l'aluminium de Kobe Steel a été employé pour les portières et capots de véhicules, dit-on chez Nissan. Le nom de PSA est également cité, mais PSA répond que Kobe Steel n'est pas un de ses fournisseurs. Le numéro 3 japonais de l'acier a avoué avoir falsifié aussi les données relatives à la qualité de fil d'acier utilisé dans les moteurs et les pneus. Le groupe européen Airbus vérifie si parmi ses fournisseurs, certains font partie des clients de Nippon Steel. Le patron de Kobe Steel ne s'explique pas ces falsifications systématiques des caractéristiques techniques de ses produits. Une pratique qui remonte pourtant à une dizaine d'années.
Et Frédéric Charles depuis Tokyo pour RFI. Direction la France maintenant, le gouvernement d'Édouard Philippe lance une nouvelle politique pour mettre fin ou limiter les déserts médicaux contre le manque donc des médecins et de personnel de santé dans les campagnes et les villes rurales françaises. Reportage depuis le Limousin, donc la région française, avec Julien Chavade.
C'est très bien, mais c'est vrai que ça change.
Le centre de Chalut est déjà ouvert depuis le mois de mai. On y trouve plusieurs médecins généralistes, un dentiste, des infirmiers, de sages-femmes. Plus de 150 personnes y sont accueillies chaque semaine. Un modèle que le gouvernement veut multiplier en France.
Nous voulons doubler le nombre de ces maisons médicales. Nous avons prévu d'investir 400 millions d'euros pour participer au financement de la construction des 1000 maisons supplémentaires et centres de santé que nous voulons construire dans les 5 années qui viennent.
Autre axe important de ce plan, le développement de la télémédecine. Les actes médicaux faits à distance seront mieux rémunérés.
Nous allons inscrire la télémédecine dans le droit commun dès 2018, ce qui permettra d'établir un tarif de consultation à distance.
Enfin, pas question d'obliger les médecins à s'installer là où il en manque. Édouard Philippe préfère l'incitation.
200 millions d'euros seront consacrés dans les 5 années qui viennent au déploiement d'aides conventionnelles afin d'aider à l'installation et à l'exercice des médecins. Ça ne sert à rien d'ordonner. Il faut inciter et donner envie.
Le Premier ministre adepte de la méthode douce pour vendre ses réformes, sans fausse note. Contrairement à Emmanuel Macron, il ne dira pas un mot de la petite dizaine d'ex-salariés de GMS qui manifestaient dans la ville.
Voilà donc Julien Chavade. Un mot de sport pour conclure ce journal. Les Brisbane Roar, club où évolue d'ailleurs le franco-tunisien Fahid Ben Khalfala. Eh bien, les Roar ont perdu 2-1 face à Adelaide United. On écoute l'entraîneur des Brisbane Roar. Il s'appelle John Iloisi. Il ne pense pas que ses adversaires étaient meilleurs physiquement. Directement, on l'écoute.
Look, their fitness is a bit of a myth. Okay, they came home strong because we've got players that still aren't at a level of fitness because we've had a disrupted pre-season. Of course they're going to talk about the fitness because they ended up scoring 2 goals in the last 5 minutes. Fitness is just something that they're going to talk about because he talks about then maybe they do train 4 times a day, I don't know, but I don't believe in they're that fitter than us.
Voilà, donc John Iloisi, l'entraîneur des Brisbane Roar. La deuxième journée de la A-League continue ce soir. Tour d'horizon pour la météo pour aujourd'hui. Perth, il fera 31 degrés. Adelaide, 23. Melbourne, 19. Hobart, 19. Canberra, 19. Sydney, 20 degrés. Brisbane, 24. Cairns, 31. Et Darwin, 34 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les États-Unis qui rejettent l'accord sur le nucléaire iranien, un accord signé par Barack Obama. La communauté internationale s'indigne. L'UNESCO a une nouvelle présidente. Elle s'appelle Audrey Azoulay et elle est française. Et en France, le gouvernement souhaite mettre fin aux déserts médicaux. On vient de l'entendre.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench